Au début, les gens n'avaient que la réalité et le rêve. Maintenant, ils ont la réalité, le rêve, et en plus des images et des sons que l'on appelle de la fiction. Est-ce que ça ne risque pas de créer des troubles, de ne plus faire la différence entre le réel et la fiction et le rêve? Est-ce que le cerveau, qui est habitué depuis sa naissance à voir toutes ces images, est capable ou sera capable de voir la différence qu'il y a entre le réel et les autres? Parce que dès sa naissance, il a toujours vu les deux mélanges. Comment peut-il faire l'apprentissage du réel et du non-réel s'il n'a pas connu un monde où le réel domine tous ses sens? Si dès le réveil, on lui balance des choses irréelles et d'images faites, etc. Et ceci jusqu'à le rêve qui prendra la relève de ces images de fiction, que restera-t-il en réalité du temps pour le réel? Est-ce suffisant pour voir la différence, pour que le cerveau, nos sens, puissent voir la différence entre réel et non réel? Est-ce que nos rêves, qui doivent être un défoulement de notre vie, de nos souhaits, besoins, de tout ce que nous avons vécu et senti et souhaité être, ne sont pas modifiés par toutes ces images et ces sons irréels qui ne sont pas de nous et empêchent de rêver, de se défouler et de voir pour être simplement la suite de ce que nous avons ressenti en voyant et entendant l'irréel. Le rêve, un lieu, au lieu d'être notre subconscient qui se défoule, il ne peut être que la suite de ce que nous avons vu et entendu, que ce soit des choses réelles ou irréelles. Et cela l'empêche de faire son travail de défoulement et de créer des troubles dans la vie courante. Car comme le défoulement n'a pu se faire en rêve, le cerveau bouillonne et explose et se défoule pour de vrai dans la vie, avec des gestes, des mots véritables, sans morale, sans sensibilité, sans limite. Donc attention à ce que l'irréel et le réel, le cerveau puisse voir la différence. Les gens ne savent plus où ils en sont, car le réel se mélange trop à l'irréel. L'actualité va trop vite, car au fur et à mesure que j'écris, j'apprends des nouveautés plus nouvelles que ce que j'invente. Mon livre peut être un livre sans fin, et il risque d'être démodé avant d'être fini. Ah, le temps de Jules Verne et la science-fiction d'antan. Fort et chez Galien, dans son bureau, il lui dit
« Vous êtes le responsable aux yeux de Dieu de l'univers. Dieu est en vous, et Lucien ne peut être le premier. Il ne sera que le second. Il ne peut pas vous remplacer même une année sur deux. C'est impossible. »
Galien lui dit « Je vous remercie, mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas dire à Lucien Pontoise, le président du groupe Pontoise, qui est un très grand groupe, avec ses produits diététiques, le traitement de l'eau, ses maisons de retraite, ses maisons d'arrêt, ses chaînes de télévision, de radio, ses maisons de disques, et j'en passe. Lui dire, écoute mon vieux, t'es un nul, c'est moi qui garderai la présidence. Mais non, c'est impossible. L'enfant lui dit, mais vous êtes l'élu, celui qui a été choisi. On vous a mis de l'ADN de Dieu dans votre corps, sans que vous en rendiez compte. Et en plus, vous êtes le maître des sept soleils. Votre but est un monde parfait. Gaïa lui dit, j'ai des difficultés à croire à tout ça. Qu'est-ce que les sept soleils ? L'enfant lui dit, nous vous le dirons lorsqu'il sera temps. N'oubliez pas, il ne peut y avoir qu'un chef, c'est vous. Gaïa lui dit, bien, puisque je suis le chef, je vous dis que Lucien sera le chef une fois sur deux. Les jours passent. Après sa chirurgie esthétique, qu'il a fait paraître une femme de 25 ans, et en plus avec l'intelligence d'une femme mûre, tout le monde se retourne sur son passage et se demande quelle est cette belle femme. À une soirée où elle est invitée chez Congorset, dans une de leurs villas à Charbonnières, vieille maison du siècle dernier, au fond d'un parc. Il y a foule, toujours les mêmes, Lucien et Pascal, Pierre-Max Roussillon et Broderick, Frédéric Lefort, le tout Lyon, quoi. Madame de Hautebord arrive seule, son mari est parti en ambassade extraordinaire pour le Vatican à cause de l'affaire de Monseigneur Yoga. Son fils et sa fille sont partis avec leur père. Lorsqu'elle arrive, Madame de Condersin vient vers elle. Et lui dit,
si je ne savais pas que c'était vous, je ne vous aurais pas reconnu. Vous êtes si jeune et belle. Venez, je vais vous présenter.
Elle la présente à plusieurs invités. Une demi-heure plus tard, Madame de Hautebord est entourée de gens qui la félicitent de sa beauté. Puis tout le monde va au buffet manger et boire. Madame de Hautebord se met à l'écart, un verre à la main. Un jeune homme vient vers elle. Il est grand, mince, blond dans les 20 ans ou un peu moins. Le visage très fin, les yeux bleus profonds et habillé d'un smoking noir. Il lui dit, bonjour, belle soirée.
Oui, très belle,
il lui dit, mais un peu ringarde. C'est bon pour nos parents, ces soirées comme ça.
Tu es venu seul?
Oui. Moi, mon père est là-bas. Tes parents te laissent... aller comme ça sans t'accompagner? Elle lui dit,
non, et puis ils sont morts depuis longtemps.
Oh, je comprends, tu es orpheline, pardonne-moi. Tu n'as pas dû les connaître?
Mais non, pas du tout, ils sont morts en 1953.
Elle lui dit,
tu te moques de moi, en 53?
C'est ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère qui est morte.
Mais non, c'est mes parents.
le jeune homme réfléchit et lui dit
« Je comprends. Tu es une de ces personnes qui sont nées beaucoup de temps après la mort de ses parents. On a conservé le sperme de ton père et... »
« Absolument pas, je suis né comme tout le monde. »
« Bien sûr que tu es né comme tout le monde. Mère porteuse et tout. Je comprends très bien. Moi-même, j'ai un ami comme toi. » Hélène Soupère lui dit
« Nous ne comprendrons jamais. »
Il lui dit « Surtout ne dis pas ça. Je te trouve très jolie. Tu m'as plu tout de suite. Et moi ?» Elle hausse ses épaules. Il lui dit « Tu es de ces filles qui n'aiment pas les jeunes gens. Pourtant, je dois avoir au moins 3 ans de plus que toi. J'ai 20 ans. » Hélène sourit. Cela commence à l'amuser. Elle est flattée d'être draguée par un jeune garçon à son âge qui pourrait être largement son fils et même son petit-fils. Elle lui dit, je m'appelle Emmanuel Ben. Elle lui dit,
moi, Hélène.
Il lui dit, j'ai un nom un peu vieux, tu ne trouves pas?
Non, pas du tout.
On va danser? Je ne sais. Mais si elle est bien, tu vas tout même pas me laisser tomber avec ses yeux. Et ils vont danser. Puis, ils l'amènent dans le parc. L'air est doux, c'est la pleine lune. Tout en marchant dans l'allée, il lui dit, Hélène, c'est la première fois que je ressens une chose comme ça. Tu es tellement belle. Je crois bien que je suis amoureux de toi.
Elle sourit et lui dit,
vous flattez, mais je suis beaucoup trop vieille pour vous.
Il lui dit, encore cette histoire d'âge, mais j'ai au moins 3 ans de plus que toi. Pourquoi est-ce que les filles n'aiment pas les vieux?
Les filles de mon âge ne me courent pas après.
Celles qui me courent après ont 12 ans.
Elle lui dit,
mais j'en ai. Taisez-vous.
Il veut la prendre dans ses bras, elle se dégage.
Il lui dit, comme vous êtes cruelle. Vous voulez pas de mon amitié?
Il a l'air si triste qu'elle lui donne un baiser sur la joue. Elle lui dit,
je suis très flattée de vos sentiments pour moi. Cela me touche beaucoup.
Il lui dit, parlez pas comme une vieille. Cela ne vous va pas.
Et que dois-je dire?
Rien, ou que vous êtes heureuse.
Entrons.
Elle lui dit,
je dois rentrer.
Déjà?
Oui.
Bien, je vous raccompagne.
Non, ça ne vaut pas la peine.
Vous avez peur que je sache où vous habitez?
Vous avez peur de moi?
Elle lui dit,
non, pas du tout. J'ai ma voiture et le chauffeur.
Ça ne fait rien. Je peux bien vous accompagner.
Et pour le retour,
votre chauffeur me raccompagnera.
Elle soupire et lui dit, bien. Puisque c'est comme ça,
allons-y.
Elle le mène vers sa Rolls et son chauffeur.
Eh bien, c'est ça ta voiture? C'est plutôt celle de tes parents. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme fric?
Elle le fait entrer dans la voiture.
J'ai fait la connaissance d'une vraie princesse.
Elle sourit.
Durant le trajet, il essaye de l'embrasser. Elle se débat.
Il lui prend la main, elle le laisse faire. Le chauffeur a arrêté la voiture devant le portail de chez elle. Elle lui dit
« Eh bien, au revoir. »
Il lui dit « Vos parents ont une sacrée belle maison. Vous ne me laissez pas rentrer un instant ?»
Elle lui dit « Non, surtout pas. »
« Ah, je comprends. Tes parents doivent être très sérieux. Bon, eh bien, au revoir. » Il donne un baiser sur la joue. Elle s'est laissée faire. Sort de voiture. Et la voiture est repartie pour le ramener. Elle se déshabille en pensant à cette soirée où elle a été courtisée comme une jeune fille. Cela lui rappelle sa jeunesse et de son temps les jeunes gens étaient plus timides. Elle rougit en se disant qu'il l'a prise pour une gamine. Se réveille en repensant à cette soirée et se disant que le jeune homme était un très beau garçon. L'après-midi est au salon à feuilleter une revue littéraire. Elle n'arrive pas à s'y intéresser. Elle a envie d'autre chose. A frappé à la porte.
« Entrez !»
C'est le domestique. « Madame !» « Madame, il y a un jeune homme qui désire vous parler. »«
Qui est-ce ?»«
Monsieur Bell. »«
Bell ? Je ne vois pas. Il est comment ce monsieur ?»«
Très jeune, bien de sa personne, blond. »«
Ah, oui, je vois qui c'est. »
Elle soupire et dit.
« Eh bien, faites-le entrer. »
Le domestique sort. Elle se dit.
Je suis folle de le recevoir. Me laisser courtiser par un enfant. Mon Dieu, si mon mari l'apprenait, et Charles.
On frappe à la porte.
Entrez.
Entre Belle, en costume cravate. Il lui dit « Salut, tu vas bien ?» Elle va vers lui. Il lui fait la bise. Elle le laisse faire. Elle remarque qu'il sent le frais. Il lui dit « Tu vois, je me suis mis en costume à cause de tes parents. » Elle lui dit
« Il faut que je vous dise hier. »
« C'était très bien. Je suis venu te chercher. Il passe les mouches à merde au transbeau. Je suis sûr que ça te plaira. » Elle lui dit
« Mais je ne sais pas. »«
Ne fais pas de chichi. Allez, viens. Il faut qu'on passe chez moi pour me changer. Allez, viens. »«
Bon, mais je ne peux pas y aller comme ça. »«
Tu n'as rien de plus ?»«
Non. »«
Ah, les parents. Ne t'en fais pas. Je te trouverai bien quelque chose chez moi. Viens. »«
Bon, je te suis. »
Amusée et surprise, elle le suit. Arrivé devant le portail, il l'amène devant un scooter. Elle lui dit,
c'est avec ça.
Oui, c'est plus facile pour la ville. Il lui donne un casque. Tiens. Elle le met, et lui met le sien. Trajet est surprise. Elle aime ça, le vent sur les cheveux, le corps du jeune homme qui se plaque contre le sien. Arrivé à avenue de Saxe, le scooter s'est arrêté. Il lui dit, alors ça t'a plu? Génial! Elle a dit ça malgré elle. Et son mot est sorti du corps. Elle se sent jeune et fraîche. Il lui dit, c'est mieux que la voiture à papa? Oui, beaucoup mieux. Elle a l'impression d'être vraiment jeune. Ils sont arrivés devant un vieil immeuble rue de Brest, de 4 étages, sans âge, très défraîchi. Il lui dit, c'est là, viens. Elle le suit. Et ils entrent dans l'allée. L'odeur, je vais faire la grimace. Il lui dit, c'est au troisième. Ils prennent un vieil escalier de pierre. Troisième étage, il ouvre la porte de son appartement, une porte toute simple. Elle est un peu essoufflée d'avoir monté si vite. Et aussi, on n'a pas l'âge de sa peau, mais de ses artères. Entre. Elle entre. Petit couloir avec un porte-manteau en bois bourré de vêtements. Seul en inno, tapisserie bon marché. C'est un deux pièces, pas très grand. Il va ouvrir une porte qui est en face de celle de l'entrée. Entre. Elle entre. C'est le chez-jour. Fenêtre sans rideau, vieille cheminée. Pierre sans style. Une table, quatre chaises, un buffet, un fauteuil défoncé en tissu marron, un vieux poste de radio sur la cheminée, au-dessus de la cheminée, un poster du Titanic. Assieds-toi. Elle va s'asseoir sur une chaise qui est près de la table. Tu veux boire?
Oui, merci. Un coca, une bière? Tu n'as pas de jus de fruits?
Non.
Eh bien, un coca.
et il va le chercher dans le buffet. Il prend deux canettes, va le lui donner. Elle ne sait pas comment l'ouvrir. Il le lui ouvre et s'assoit en face d'elle.
En buvant, elle fait la grimace et lui demande « Tu n'aimes pas ça ?»«
Je n'ai pas l'habitude, ça a un goût bizarre. » Et puis les bulles piquent.
Il lui dit « Moi j'adore ça. Des fois, je bois 4 litres de coca par jour. »
Elle lui dit « Tu es dingue !»
Elle se dit, en buvant, « Mais pourquoi je parle comme ça ?»
Il lui dit, « Le concert est dans 1 heure. On a le temps de s'habiller et de manger une pizza. »
Il termine leur canette et il lui dit, « Viens, je vais te chercher des fringues. »
Ils sortent de la pièce. Et il l'amène dans sa chambre. Entre. Elle entre. Bien sûr, le lit n'est pas fait. Traîne à terre des chaussettes et un slip. Ça sent le mec avec une odeur de cigarette. Il y a des canettes de bière aussi à terre, vides, avec des capsules. En plus de lit, il y a une table de nuit avec une pile de BD et un soriant. L'armoire a 2 portes vitrées. Les portes sont ouvertes et elle est bourrée de linge. Elle est un peu gênée de se trouver dans cette chambre. Lui est gêné aussi de la voir ici. Il sort de l'armoire un jean, un t-shirt noir avec une tête de mort rouge dessus et un blouson de cuir. Tiens, essaye ça. Elle regarde les vêtements et elle lui dit oui et ne bouge pas. Alors, il sort de la pièce et ferme la porte. Elle se déshabille. Et s'habille. Le jean est trop long, le t-shirt aussi. Elle se regarde dans la glace et se trouve l'air d'une gamine. Cela la fait rire. On frappe à la porte.
Entrez.
Il entre. Génial, tu es exactement ce qu'il faut. Elle lui dit,
le jean est un peu long.
Remonte le bas.
Elle le fait.
Un quart d'heure plus tard, ils sont dans une pizza à manger. Elle rit, elle est heureuse. Elle a l'impression d'être une adolescente, de faire son adolescence. Une adolescence qu'elle n'a pas eue. Enfin, elle est jeune.
C'est quand on a mal dormi qu'on a l'air le plus reposé. C'est pas que j'ai mal dormi, c'est pas ça, non? Devine qui est venu me voir.
Quand?
Oh, s'il vous plaît. Un sandwich au gruyère.
Après, ils sont allés au transbo. Attendu une demi-heure que l'on ouvre les portes. Les jeunes sont entrés, c'est sombre, sale. Elle a eu un peu peur et s'est blottie contre Emmanuel. Les lumières se sont éteintes, le concert a commencé, il y a eu des feux de toutes les couleurs, les groupes sont entrés sur la scène. C'est drôle, ça n'a ni queue ni tête, mais elle aime. Après le concert, ça t'a plu? Oui, beaucoup. Tu viens chez moi?
Non, je dois rentrer chez moi.
Et les fringues?
Oh, oui, c'est vrai. Allons chez toi, je dois en changer. J'ai complètement oublié.
Il est vrai qu'elle avait complètement oublié qu'elle était Hélène de Hautebeurre. Deux heures plus tard, il la ramène chez elle. Avant de le quitter, il lui donne un baiser sur les lèvres. C'est la première fois de sa vie qu'elle ait senti un baiser aussi profond. Cela la rend toute drôle. Deux jours plus tard, il vient la chercher pour aller voir un film. Puis ils sont allés chez lui discuter un peu avec du coca, qu'elle commence à aimer. Ils parlent de philosophie et tout ce qui intéresse les jeunes. Ils se voient souvent. Elle accepte de sortir avec lui parce qu'elle se sent jeune avec lui. Et puis, elle a un faible pour lui. Elle se laisse un peu embrasser, mais rien de plus. Les jours passent. Elle ne sort qu'avec Emmanuel. Ses amis lui téléphonent et lui demandent de ses nouvelles.
On ne te voit plus au bridge. C'est-à-dire que je suis très beau occupé, j'ai beaucoup beaucoup à faire.
Cela la dégoûte, rien de savoir qu'elle sera obligée de retourner à des bridges, un machin de vieille femme. Mais elle, qui est allée voir les mouchas merdes, aller au bridge, et quoi encore?
Je ne suis pas encore une vieille femme que l'on met dans une maison de retraite.
Les jours passent, sa famille est toujours absente, elle n'y pense pas. Elle est tout à son bonheur, le bonheur d'être une jeune fille amoureuse. Un soir, chez lui, ils sont assis sur le lit, enlacés. Emmanuel lui dit « J'ai envie de passer quelques jours sur la côte. Qu'est-ce que tu en penses ?» Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.